You're listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station.
Et bonjour à tous. Journée inhabituelle, pardon, pour diffuser sur les web ondes de Radio Girol. Mais après cette douloureuse période de confinement, on décide de reprendre un petit peu les choses en main. Nous faisons une émission un peu spéciale qui ne sera plutôt très courte et qui sera rediffusée plus tard sur la clé des ondes dans l'émission La clé de la liberté. Bonjour à tous. Donc, nous sommes dans les locaux d'Adkilunet où nous enregistrons cette émission. Je suis avec Sacha. Bonjour Sacha.
Bonjour Yuri.
Et je suis avec Yves-Marie.
Bonjour Sacha et Yuri.
Aujourd'hui, nous allons parler de choses importantes, de liberté sur Internet, de Sci-Hub, des rentiers de la culture, des données personnelles et tout ça dans un petit... Et nous allons aussi parler de notre ministre de l'Intérieur, comme on dit dans un certain film, plus sinistre que ministre, mais bon, sinistre personnage en tout cas.
Tout ça dans la bonne humeur et dans la joie.
Exactement, comme on a l'habitude chez Akilonet.
Et chez Girol.
Et chez Girol aussi. Du coup, je vous propose de commencer avec... on va discuter de Sci-Hub. Du coup, il faut sauver Sci-Hub et Alexandra Elbakian, si je le dis bien.
C'est ça. C'est une compatriote russe, une chercheuse qui a commencé à travailler sur une neuroscience et qui s'est rendu compte qu'il fallait payer plus de 30 euros pour chaque accès aux publications scientifiques. Et ça l'a un petit peu agacée. Donc en fait, le problème de fond, c'est que les publications scientifiques se sont faites accaparer par des intérêts privés et ces accès à des données qui étaient avant publiques deviennent payantes. Et il y a des immenses bases de données qui recensent toutes ces parutions et c'est assez compliqué pour les scientifiques de pouvoir faire leur boulot dans de bonnes conditions parce que maintenant, il faut avoir un budget et ils ne sont pas toujours maîtres de leur budget pour accéder à ces informations. Donc, ce qu'a fait Alexandra Elbakian, c'est qu'elle a diffusé gratuitement toutes ses publications. Alors, on a eu des précédents. Vous avez peut-être entendu parler d'un monsieur qui s'appelait Aaron Schwartz, qui avait déjà fait ça à l'époque. Ça avait fait beaucoup de bruit. Donc, ce site Sci-Hub existe depuis, je ne sais pas combien de temps.
5 septembre 2011.
Voilà, merci. Et elle a reçu une lettre l'invitant à fermer le site. Elle commence à être poursuivie pour fermer ce site. Donc, il y a eu un appel sur Internet pour sauver les données qui sont sur ce site, pour qu'elles ne soient pas bloquées par les soi-disant ayants droit. Et en l'occurrence, ça représente quelque chose comme 73 téra de données. Et donc, elle a fait cet appel pour qu'on sauve cette base de données. Et on sait qu'aujourd'hui, qu'elle a été sauvée à plusieurs reprises. Donc, ce savoir n'est pas perdu et ne disparaîtra pas. Par contre, le problème reste entier. Parce que ça reste illégal de publier ces données scientifiques qui sont censées être librement accessibles et qui sont devenues payantes. Et on a un problème sur les communs qui est assez compliqué dans le milieu scientifique.
Sachant qu'il y a quand même beaucoup de recherches scientifiques, si je ne me trompe pas, qui sont financées par des fonds publics. Et donc, ça pose d'autant le problème que ce sont des choses qui ont déjà été financées par les impôts, nos impôts, et, qui sont réservés, et que des entreprises commerciales, pour s'enrichir, font payer très cher, parce qu'il est dit sur Wikipédia qu'il faut compter à peu près 30 dollars environ par article, et on parle de 80 millions d'articles stockés dans la base de données de Sci-Hub. Donc ça représente une manne considérable pour des intérêts privés, et pour ça, il est dans la poche de toujours les mêmes, en fait.
On peut peut-être faire un parallèle contemporain avec un certain vaccin d'un petit virus là, qui circule en ce moment. On peut considérer que la recherche sur ce vaccin a été financée par le secteur public. Le vaccin reste payant. On a raté une très belle occasion de faire rentrer ce vaccin dans le domaine public. Ça ne s'est pas fait. Il y a eu quelques éminentes personnes qui se sont mobilisées pour que ce soit le cas. Ce n'est pas le cas. Donc les pays d'Afrique n'ont pas accès au vaccin, clairement. Les pays riches, oui. C'est encore un problème récurrent sur justement ces communs, encore une fois, sujet qui reste central. En fait, je ne sais pas si on peut peut-être développer la notion de commun.
Oui.
Yves-Marie, peut-être que tu veux en parler un petit peu.
Oui, en fait, ce qui est commun, c'est ce qui appartient à tout le monde. Et en prenant l'origine de la construction de ces données, de ce savoir, de ces connaissances, c'est prendre en compte le fait que le financement initial a été pour une énorme partie le financement des États. Et donc les États, à travers la formation des scientifiques, à travers les moyens mis à disposition, et à partir de ce moment-là, on peut tout à fait dire que la prolongation naturelle devrait être la mise à disposition de ces données pour le bien commun. Ce sont donc les communs.
Voilà, et dans le cadre de Sci-Hub, comme dans le cadre d'un certain vaccin pour une maladie que l'on connaît bien, c'est que en plus, ça permet de sauver des vies. C'est que de rendre, effectivement, financer la recherche par des fonds publics, mais ne pas donner au public ce pour quoi il a payé, ça permet d'enrichir les laboratoires, mais surtout... ça aggrave la mortalité du Covid, parce qu'il faut citer.
Tout à fait. Et puis de mettre ces éléments-là dans le commun, ça ramène une égalité déjà dans nos sociétés, et ça ramène une égalité aussi au niveau mondial. Comme tu le disais, Sacha, que l'Afrique notamment n'est pas facilement accès au vaccin aujourd'hui pour. Se protéger, c'est quand même pas normal, et c'est même, si on réfléchit bien, un danger, une possibilité de retour de variants qui reviendraient de ces pays-là. Donc je pense que le bon sens serait de mettre ces éléments-là dans le commun.
Je crois que c'est évident pour tout le monde que si on veut envoyer cette maladie, il faut que le maximum de gens qui souhaitent se faire vacciner puissent le faire. Donc à partir de là, on ne pourra pas enrayer cette maladie, clairement.
Voilà. Et donc, pour aussi vacciner tout le monde sur de la connaissance, rendre les données publiques des travaux scientifiques, ça serait utile d'avoir ces éléments-là d'une façon commune et en libre accès. Alors moi, ce que je sais en n'étant pas un spécialiste du domaine, c'est qu'aujourd'hui, il a été demandé aux principaux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer les pages sur Sci-Hub.
Oui. Bah, on n'est pas, si on parle d'Akinet, on n'est pas un des principaux fournisseurs d'accès à Internet.
Non, mais je parle en général. Donc, moi, j'ai fait l'essai à partir d'une connexion grand FAI. Effectivement, on tombe sur une page, on n'accède pas au site avec un VPN. On y va sans trop de problèmes. Et tu dis que les données aujourd'hui, même si le renforcement des barrières se met en place, il y a une possibilité de les récupérer et de toute façon, elles sont sauvegardées. Mais est-ce que c'est valable aussi pour les nouvelles données qui vont sortir ?
C'était une plateforme que les gens connaissaient, donc il va falloir trouver un autre endroit que les gens connaîtront, qui sera peut-être mieux protégé, mais il y a des bastions comme ça qui résistent depuis longtemps à toutes les attaques sur le partage. Je ne suis pas trop inquiet sur la possibilité technique de réussir à trouver une nouvelle zone autonome temporaire.
Alors, dans un autre domaine, mais sujet qui s'en approche un peu, je vous propose du coup d'aborder la redevance copie privée sur le reconditionné. Il s'avère que les sociétés de gestion collective n'en avaient pas assez de nous taxer sur nos disques durs et nos téléphones que nous achetions neufs. Voilà maintenant qu'ils voient d'un mauvais œil l'essor du reconditionné et qu'ils voudraient aussi avoir un petit pécule, un peu à la manière des sociétés d'autoroute. Ils veulent de l'argent, ils en veulent toujours plus, toujours pour les mêmes, et ils essayent de faire passer en force. Il y a une proposition de loi à ce sujet sur taxer le reconditionné. Alors oui, on a des tribunes dans le journal du dimanche qui nous parlent de ce pauvre Jean-Jacques Goldman qui ne gagnera plus autant d'argent, hein, le pauvre. Mais en attendant, si est citée une entreprise qui n'est pas française, certes, Black Market, on oublie d'autres acteurs beaucoup plus locaux, Nous avons dans la région bordelaise des entreprises qui reconditionnent du matériel informatique, du matériel téléphonique aussi. Nous avons des associations comme Emmaüs qui essayent effectivement d'équiper les plus démunis en reconditionnant du matériel, et ce sont bien entendu les oubliés de ce genre de projet de loi, sachant que on en revient toujours aux mêmes choses. Il faut que toutes ces grosses entreprises, toutes ces entreprises de gestion collective gagnent encore plus d'argent avec le reconditionné.
Alors quand tu dis petit pécule, il faut quand même savoir de quel ordre de grandeur on parle. Hein. J'ai lu donc avec attention la tribune qui est parue il y a une quinzaine de jours dans le journal du dimanche, où figurait en avant donc Jean-Jacques Goldman dont tu parles. On parle entre 150 et 200 millions de collectes financières sur la taxation du matériel reconditionné, c'est-à-dire du téléphone portable, par exemple, que vous achetez une fois qu'il a été reconditionné. Donc, il ne faut pas oublier déjà que le support numérique a été déjà taxé à la vente quand il était neuf. Donc, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où ce n'est plus le matériel qui est taxé, mais c'est la personne qui va l'utiliser, puisque la première personne qui a acheté le téléphone a payé sa taxe copie privée. Et le téléphone étant reconditionné, le même matériel avec le même support pour enregistrer de la musique, de la vidéo ou tout ce que vous voulez, va être retaxé une deuxième fois. Alors, en lisant cette tribune avec attention, j'ai aussi noté que les arguments pouvaient être entendus par rapport aux gens qui défendent ce projet, à savoir que le financement, d'après ce qui est déclaré, sert essentiellement, alors ça reste à être vérifié, hein, à la mise en place de scènes culturelles, de concerts. Voilà. Donc, bon, moi je suis dans l'expectative, je ne suis pas certain que les ayants droit de la copie aient vraiment besoin de cette manne financière. Maintenant, c'est sûr que quand on le regarde sur l'angle de l'emploi et des petites entreprises, notamment sur la région bordelaise, qui reconditionnent des supports, ça peut avoir quand même des conséquences, puisque la taxe à l'unité du matériel reconditionné serait de 7 euros. Et dans le débat qui a lieu aujourd'hui, on se retrouve avec un peu la pagaille quand même au sein de l'Assemblée nationale, puisque bon, les courants de gauche sont plutôt vent debout. Et maintenant, dans la majorité, on a quand même des gens qui sont séparés. Donc, ce n'est pas du tout sûr que cette loi passe. Je ne sais pas exactement quand elle est débattue, mais ça arrive dans très peu de temps.
Alors, sachant que l'UFC Que Choisir, alors je cite un article du Midi Libre paru aujourd'hui même, en fait montre ensuite chiffre à l'appui. Alors c'est à vérifier bien entendu que les smartphones bas de gamme seraient plus taxés que les reconditionnés que les smartphones haut de gamme. Alors bien sûr c'est bien à prendre après des pincettes. Là où ici on a, je trouve un problème avec la taxe copie privée, je vois deux axes principaux. Le premier c'est que la commission copie privée, les ayants droit sont surreprésentés par rapport aux industriels et surtout par rapport aux consommateurs, parce qu'il ne faut pas oublier le consommateur. Donc il n'y a pas de parité possible. Donc forcément, la commission copie privée est là pour fixer le barème de taxation des supports numériques. Donc effectivement, quand les ayants droit sont plus représentés que les autres, forcément ils vont forcément gagner. Donc il y a un problème de ce niveau-là. Le second problème, il a été souligné par un tweet que j'ai vu où une personne disait, oui c'est très bien, on a été taxé le smartphone une première fois, ou c'est valable aussi du coup pour l'ordinateur, etc. Alors c'est d'autant plus vrai là pour le smartphone, on va le taxer une seconde fois, mais en plus il est fort probable que la personne qui utilise le smartphone utilise Spotify, Deezer ou d'autres services de streaming musical en ligne et paye en plus une taxe copie privée en fait pour utiliser ces services. Donc on se retrouve en fait avec une taxe qui pour un appareil aura été collectée 3 voire 4 fois, parce que premier propriétaire, il paye la taxe copie privée, il paye son service de streaming musical par le biais de son service de streaming musical, il paye une taxe aux ayants droit de copie privée, puis le smartphone est revendu, encore une fois la taxe, et le prochain propriétaire reprend un abonnement, si c'est le cas, il payera encore une quatrième fois. Donc on se retrouve avec un appareil qui a été taxé 4 fois.
Si je reviens sur ce que tu as annoncé sur le montant par rapport au volume disponible, en fait, la commission copie privée s'est retrouvée un peu prise à son propre piège avec le matériel recyclé et revendu. Parce que dans un premier temps, ils avaient taxé les disques durs à l'époque où il y avait un développement des smartphones qui était bien en recul par rapport à aujourd'hui. en disant plus vous avez de volume pour stocker, plus vous allez payer cher. Et donc ils ont mis en place, ça a été retravaillé il y a 2 ans, une nouvelle taxation, c'est-à-dire jusqu'à 8 gigas, vous payez tant, de 8 gigas à 50, vous payez tant, etc. Mais ils se sont rendus compte, en fin de compte, que pour la copie privée, et en particulier sur les smartphones, leur système, plus de volume, plus de taxes, ne fonctionnait plus comme ils voulaient, puisqu'en fin de compte, la plupart des smartphones ont quand même une capacité de stockage qui est relativement faible. On se retrouve avec du 16 ou du 32 gigas dans la plupart des smartphones. Donc là, ce qu'ils voudraient en plus, c'est inverser l'échelle de façon à faire payer à l'unité de stockage, à l'octet, plus cher les petits volumes et faire payer moins cher les gros volumes puisqu'ils sont moins vendus et en général moins recyclés.
Donc, c'est un peu, du coup, on marche un peu sur la tête quand même.
Ça, c'est le cas. C'est souvent le cas en ce moment.
Et du coup, vous savez ce qu'ils en font de cette taxe sur la copie privée? Comment elle est redistribuée?
Alors, elle est redistribuée aux ayants droit. Donc là, je pense que c'est la SACEM qui intervient.
SACEM qui s'occupe de ça.
Voilà. Okay. Et il y a une partie de cette manne financière qui est redistribuée pour créer des événements, pour financer tous les acteurs de la musique.
Enfin, tous,
oui. Et de toute façon, toujours avec une répartition qui est certainement... respectable, mais qui mériterait peut-être aussi d'aider le développement des petits artistes. Voilà.
La redistribution de la SACEM, respectable, t'es gentil, je trouve.
On en a beaucoup parlé au sein du collectif Girol, notamment lors d'autres précédentes émissions de radio, et effectivement, c'est vraiment sujet à discussion et à débat pour effectivement... Parce que ce n'est pas aussi transparent qu'il faudrait que ce soit. Surtout quand on parle effectivement d'argent qui est collecté, de taxes en fait. C'est parce que ce n'est ni plus ni moins qu'une taxe. Je vous propose de parler du coup du sujet suivant, les données personnelles chez Cache Investigation. Donc vous êtes peut-être beaucoup, alors moi non par contre, à avoir vu le reportage de Cache Investigation sur l'utilisation des données personnelles et surtout leur valeur. Du coup Sacha, tu voulais nous en parler un petit peu?
Oui, j'ai des camarades qui m'ont attiré l'attention sur ce documentaire de Cache Investigation qui fait pas mal son boulot, on va le dire, notamment sur un sujet que je ne connaissais pas, qui est l'exploitation des données personnelles de la santé, notamment dans les pharmacies. C'est-à-dire que les pharmacies utilisent des logiciels pour faire leur compta, des logiciels qui font des statistiques sur la vente des médicaments et plein de choses qui sont gratuits. Et donc, comme les logiciels sont gratuits, en contrepartie, ils envoient toutes les informations de tous les clients qui sont renseignés dans ces logiciels. Il y en a des multinationales qui exploitent ces données. Donc, l'exploitation des données de santé, c'est un sujet assez sensible. Normalement, il devrait y avoir des affiches dans toutes les pharmacies qui utilisent ces logiciels pour permettre aux clients d'avoir le choix de oui ou non donner leurs données privées à ces logiciels. Et il devrait y avoir même des options dans le logiciel qui n'existent pas. Alors, a priori, après le documentaire de Cache Investigation, l'option a été rajoutée. Mais c'est un sujet assez sensible et c'est un petit peu l'or noir d'aujourd'hui, cette exploitation des données privées. Ils ont fait aussi, Cache Investigation aussi fait des démos comme ça, assez percutantes, où ils s'inscrivent sur des plateformes qui vendent des numéros de téléphone et des données personnelles. Et là, ils peuvent trouver les numéros de téléphone des ministres français assez facilement. En fait, il suffit qu'il y ait une personne de vos contacts qui dit oui à un logiciel qu'elle installe sur son téléphone. Oui, au mauvais moment, voulez-vous partager vos contacts? Oui. Pour que les contacts soient partagés. Et donc le vôtre, même si vous dites tout le temps non, vous, sur votre téléphone, vos camarades le font peut-être. Donc faites attention quand vous installez des applis, ne dites pas toujours oui à tout. Bon, en même temps, c'est une règle de base qui fonctionne pour pas mal de choses aussi.
Prendre le temps de lire.
Alors voilà, essayer même se dire non, j'ai pas envie qu'ils partagent mes contacts, j'en ai peut-être pas besoin, et puis voir si ça fonctionne aussi bien sans. Souvent c'est le cas. Donc voilà, ce documentaire était assez intéressant sur ces aspects de données de la santé notamment.
Il est encore en streaming pendant un bon petit moment. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est le recul qu'ils ont pris sur les différentes enquêtes. Bon, c'est quand même hallucinant de voir que des numéros de téléphone de gens des ministères qui sont normalement sur des réseaux privés, c'est-à-dire que vous avez des téléphones qui sont chiffrés, qui sont super protégés, et ces numéros sont disponibles. Donc vous pouvez appeler Monsieur le maire, vous pouvez appeler le directeur de la sûreté du territoire, vous pouvez appeler... Alors, ça a quand même été assez hallucinant. Sur la partie santé, moi j'ai relevé aussi quelque chose qui est intéressant, à savoir que le directeur France d'une société américaine, donc cette société américaine qui fournit gracieusement aux pharmacies un logiciel global de gestion de sa pharmacie, c'est-à-dire que vous avez la compta, vous avez les stocks, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vendez un médicament, il est scanné, il rentre dans ce logiciel et vous avez un état de stock qui vous permet de recommander aux fournisseurs en temps réel, etc. Donc le directeur France de cette entreprise a été détaché de cette entreprise pendant plusieurs mois pour aider au niveau de l'État français à la construction d'une gigantesque base de données sur la santé des Français, donc créée par l'État français. Il a fait son boulot. Alors après, il se défend, il dit il y a eu une enquête de moralité, pas de conflit d'intérêts, etc. Et cette mission ayant été remplie avec cette gigantesque base de données dans laquelle les données de tous les Français au niveau santé sont intégrées pour 12 ans, et bien une fois que sa mission a été terminée, il est retourné dans l'entreprise, il a même pris du galon. Donc, je ne sais pas, il y a du conflit d'intérêts, il y a quelque chose qui ne me plaît pas tellement. Et on avait bien compris quand même la philosophie du personnage, puisque sur sa présentation dans le reportage, on le voit face à des étudiants de Subdeco. Et il explique très bien que l'avenir, c'est prendre les données personnelles des gens concernant la santé et puis à un moment donné de les faire travailler. Alors de les faire travailler dans quel but ? Les faire travailler pour que des entreprises aient la possibilité d'en savoir beaucoup sur vous. Par exemple, demain, vous voulez contracter un prêt, vous faites une demande, et bien une société de crédit pourrait très bien aller voir les données de santé qui vous concernent et adapter le prix par rapport au risque qu'elle prend à assurer ce prêt pour vous le donner. Donc il y a une certaine injustice et il y a une perte de partage des communs, c'est ça qu'on dit ?
On y revient toujours.
Oui. Et il y avait un dernier sujet dans ce documentaire qui était aussi sur les objets connectés et notamment les montres connectées et justement cette quantité aussi d'informations personnelles qui étaient remontées à des boîtes, encore une fois, sur lesquelles on n'a aucune visibilité. Et du coup, ces données personnelles sur les métriques qui viennent de cette montre sont capables de, bon, déjà de vous identifier, ça c'est clair, mais aussi de connaître votre état d'humeur, votre état de stress, suivant des conditions, suivant l'endroit où vous vous situez. Donc en fait, on peut savoir de vous une quantité de données assez impressionnante et qui vous échappe complètement du coup, parce que vous n'avez pas, c'est pas vous qui les exploitez ces données, c'est ces entreprises qui vous vendent ces montres magiques qui font plein de choses super cool, mais à votre détriment aussi. On en parlait, je crois, il n'y a pas très longtemps. On parlait des outils loyaux ou pas. Est-ce que on peut considérer que ça aussi, c'est un outil loyal ? Ben non, en fait, il fait des choses qu'on ne lui demande pas. Donc, militons pour la loyauté des outils.
Ouais. Alors, je vous propose de parler du dernier sujet. Alors, c'est toi, Yves-Marie, qui veux nous parler de notre ministre de l'Intérieur et des drones.
Alors, concernant donc le ministère de l'Intérieur, une décision rarissime est tombée le 14 janvier 2021, puisque la CNIL a sanctionné le ministère occupé par Gérald Darmanin pour l'usage de drones équipés de caméras qu'aucun texte n'autorise. Et donc, on était en violation des droits des personnes. Donc, en plein confinement, il y a eu beaucoup de captations d'images avec des drones, haute définition. On se retrouve quand même avec des 12 millions de pixels qui peuvent identifier sans problème le faciès de quelqu'un, une plaque d'immatriculation, etc., etc. Et donc, la délibération de la CNIL, que je vous lis en quelques lignes, à la suite du confinement décidé par le gouvernement, au mois de mars 2020, plusieurs articles de presse ont fait l'état de l'utilisation par les forces de police, notamment le commissariat de Cergy-Pontoise et de gendarmerie, notamment le groupement de gendarmerie départementale de Haute-Garonne, de drones équipés de caméras afin de surveiller le respect des mesures prises dans ce contexte. Alors,
la CNIL avait déjà quand même, et le Conseil d'État avait quand même mis beaucoup de retenue par rapport à ces éléments-là et demander de plus d'explications, demander l'avis du Conseil d'État, regarder si tout ça c'était constitutionnel. Alors donc c'est tombé. Ben non, ça ne l'est pas. Faut arrêter. Faut pas travailler comme ça. Alors en parallèle, vous aviez la loi sécurité qui était en débat à l'Assemblée nationale. Eh bien, tout simplement. Ce que l'on a entendu, c'est que dans le fil de la procédure, le ministère de l'Intérieur a tenté d'éteindre l'incendie en estimant notamment qu'une simple mise en demeure serait largement suffisante et évidemment de ne pas faire de publicité et de ne pas parler de cette sanction de la CNIL, enfin de cet avis négatif de la CNIL à l'usage des drones et de la surveillance sur le domaine public. Voilà, donc je la fais courte. En fait, si le ministère fait de la résistance aujourd'hui, si les injonctions ne sont pas suivies des faits, la CNIL pourrait à nouveau adresser un rappel à l'ordre ou bien monter d'un cran et adresser une information au Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée. Sur ce terrain purement administratif, il y aura 15 jours pour faire connaître les suites données, mais pour l'instant, tout cela, c'est pas encore engagé. Donc, moi, je m'interroge vraiment. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a des lois qui nous protègent, la CNIL, les lois de 78, la CNIL est dépositaire donc du RGPD pour le faire appliquer sur le droit français. Donc c'est quand même dommage de voir qu'on est sur un jeu du chat et de la souris entre le ministère de l'Intérieur, son ministre, souvent aussi relayé par des gens qui ont du pouvoir au niveau local, notamment dans le sud-ouest de la France, et qu'aujourd'hui... Il y a des tentations donc de balayer tout ça et puis de dire non, on veut une société surveillée, on veut une société où tout doit être contrôlé. Alors bon, qu'il y ait un certain ordre public, ça peut se comprendre, mais de passer au-delà des recommandations des entreprises et des structures qui sont faites pour faire respecter ces droits, moi ça m'interroge. Je vous cite les sources de ce que je vous ai rapidement lu. Il s'agit du site Next Impact. Donc, qui est une très bonne source d'information. La Quadrature du Net est aussi sur ce sujet. Donc, quadraturedunet.fr, me semble-t-il.
On le mettra en lien le site de Clé des Ondes.
Voilà, donc restons bienveillants, restons à l'écoute de toutes ces informations de façon à nous protéger et puis à essayer de garantir une certaine forme de liberté maximale.
Tout à fait. Nous allons du coup clôturer cette émission. Merci à vous deux d'être venus.
Merci à toi.
Et on se retrouve, nous, le mois prochain. Allez, bonne soirée.